Merci beaucoup à ceux qui ont participé déjà et à vous qui avez chanté. Est-ce que vous pouvez trouver 1 Corinthiens chapitre 15 ? C'est le grand chapitre de la Bible qui parle de la résurrection du croyant. Quand vous pensez à 1 Corinthiens 13, vous pensez peut-être à l'amour de Dieu que nous devons nous-mêmes avoir. 1 Corinthiens 15, c'est notre résurrection. Et l'enseignement souligné dans ce chapitre est que la vie après la mort ne consiste pas seulement dans l'immortalité de l'âme, mais d'une résurrection physique du corps. C'est difficile de le concevoir parce que nous vivons dans ce monde avec un corps, mais vous allez tous vivre l'éternité dans vos corps, soit au ciel, soit en enfer. Mais l'après-mort, la vie après la mort sera aussi réelle et tangible et physique que la vie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc nous parlons forcément du corps quand nous parlons de la résurrection, parce que l'âme étant immortelle ne sera jamais ressuscitée. C'est le corps seulement qui est ressuscité. Mais c'est très important de noter que quand il veut parler de notre résurrection, il commence en nous parlant de la résurrection de Jésus-Christ. Et le thème aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ et la nôtre. Quel est le lien? Il dit, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc c'est une mort expiatoire pour les péchés. Il a été enseveli et, verset 4, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et puis ces preuves historiques, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Vous vous rappelez, c'est le demi-frère de Jésus qui ne croyait pas en lui pendant son ministère terrestre, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, c'est Paul qui parle ici, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Puis regardez le verset 11, il dit, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. » C'est-à-dire que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Et notez ce qu'il dit au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils, ou peut-être quelques-uns ici pensent-ils, qu'il n'y a point de résurrection des morts. Vous voyez le lien que l'apôtre tire entre les deux. Il dit, mais comment ça se fait que vous ne croyez pas que les croyants seront ressuscités? Parce que nous avons prêché, vous avez cru que Jésus est ressuscité. Et si nous avons prêché et vous avez cru que Jésus est ressuscité, comment ne pouvez-vous pas croire que nous aussi nous allons, ou nous serons un jour ressuscités? Il y a un lien très proche entre les deux, jusqu'au point où si l'un n'est pas vrai, l'autre ne peut pas être vrai. Il le dit dans les versets qui suivent, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, eh bien Christ, ben non plus, il n'est pas ressuscité. Pour avoir l'un, il faut avoir l'autre. On ne peut pas garder l'un sans garder l'autre. Si l'un tombe, l'autre tombe. Si Christ ressuscite, nous allons ressusciter. Si nous n'allons pas ressusciter, ben Christ non plus, il n'est pas ressuscité. Mais quel est ce lien? Quel est ce lien? Je vais vous donner 3 mots pour nous aider à comprendre le lien entre la résurrection de Christ et notre résurrection. Et chaque mot nous amène un peu plus profondément jusqu'au noyau, jusqu'au cœur de ce lien. Le premier mot, c'est le mot illustration. Deuxième, comparaison. Et troisième, relation. Je crois que vous pouvez garder ces trois mots en tête, j'espère. Illustration, comparaison et relation. D'abord, le lien inévitable entre la résurrection du Christ et la nôtre est clarifié par une illustration. C'est la première chose qu'il va nous donner dans ce chapitre. C'est au verset 20, si vous voulez bien regarder. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité. Et vous regardez à la fin, il va parler des morts, ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts. Il y a un lien entre les deux. Christ est ressuscité. Les morts aussi, quel est ce lien? Verset 20 dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Ça, c'est le premier lien. Les morts seront ressuscités, Christ est ressuscité, il est les prémices. C'est une illustration tirée de la nature, tirée de des vergers, où on sort en printemps, et on voit les premiers fruits. Et on se dit, certainement, s'il y a une pomme sur l'arbre, il y aura d'autres oranges, poires, non, il y aura d'autres pommes aussi qui viendront sur cet arbre. C'est une illustration, si vous voulez, d'un seul mot. Voici la traduction parole vivante. Qu'il est le précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. L'idée des prémices est importante parce qu'il nous indique qu'il y aura plus de la même espèce. Donc si Christ est les prémices, cela signifie que ceux qui vont suivre seront de la même nature. Il y aura forcément un lien entre Christ et nous. Il y a eu d'autres gens qui ont été ressuscités avant Jésus-Christ. Mais Christ vraiment est les prémices, le premier qui a été ressuscité à la nouvelle vie, à la vie éternelle pour ne jamais mourir. Et jusqu'en 2019, il n'est pas mort. Il est passé par la mort une seule fois. Lazare a dû passer par la mort deux fois. Mais Christ est passé par la mort une fois, car lorsqu'il a été ressuscité, c'était avec une vie éternelle qui ne pouvait plus mourir. La Bible dit que la mort ne pouvait plus le contenir. Et il est les prémices, il est le premier fruit de ce que nous serons. Nous pouvons le regarder comme le premier fruit de cet arbre et dire, nous aussi nous serons comme cela dans notre résurrection. Il y a une autre belle image illustrative, je veux juste mentionner dans ce verset, et c'est le mot endormi. Malheureusement, dans le Louis II, on le traduit mort, mais c'est vraiment le mot endormi. Verset 6, il dit, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dans quelques-uns, 100, c'est le mot grec, endormi. Verset 18, et par conséquent aussi ceux qui sont endormi en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être endormi en Christ? Ça ne veut pas dire qu'on dort pendant le culte. Hein? Je m'endors en Christ. Un jour, je portais un bébé qui dormait et quelqu'un m'a dit, ah oui, t'es pasteur, tu sais comment faire endormir les gens. Ça veut dire qu'ils sont morts. Mais c'est une image, parce que quand on s'endort la nuit, nous nous endormons dans l'attente de se réveiller. On ne dit pas « bonne nuit, je vais mourir », on dit « bonne nuit, je vais aller dormir ». Il y a cette attente qu'on va se réveiller. Et donc, l'Esprit Saint choisit ce mot pour ceux qui sont morts. Ils sont, leurs corps sont endormis. Verset 20, nous avons lu déjà que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont endormis. Et on le retrouve encore au verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous n'allons pas tous nous endormir. Mais tous, nous serons changés. C'est une belle image de la mort. Ça enlève vraiment la crainte de la mort. C'est ce qu'est la mort pour le chrétien. Il s'endort dans l'attente de se réveiller. Et c'est grâce au fait que Christ est les prémices et nous sommes les fruits qui suivent. Donc ce premier mot, c'est une illustration. La mort de Christ nous donne une illustration de ce que sera, enfin pas la mort de Christ, la résurrection de Christ nous donne une illustration de ce que sera notre résurrection. Mais deuxième mot, c'est le mot comparaison. Le lien inévitable entre la résurrection de Christ et la nôtre est expliqué par une comparaison. Regardez le verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il y a une comparaison d'abord entre deux hommes. Hein, il dit, la mort est venue par un homme et la résurrection des morts est venue par un homme. C'est une comparaison entre deux hommes. Et le premier homme, c'est, si vous regardez le verset suivant, c'est qui le premier de ces hommes? C'est Adam. Et le dernier, ou le deuxième, c'est Christ. Et le point de comparaison est les résultats inévitables qui doivent suivre d'une solidarité avec l'un ou d'une solidarité avec l'autre. Pour l'un, c'est la mort certaine. La mort est venue par un homme. Et la mort s'est étendue, la Bible dit, sur tous les hommes. Mais la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Et cette résurrection des morts s'étend aussi sur tous ceux qui sont en lui. Cette comparaison, nous pouvons aller plus loin dans, par exemple, le verset que Claudia nous a récité tout à l'heure, qui dit, c'est Romains 8, verset 11, que de même que celui qui a ressuscité Christ, il rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Une des choses que cela nous donne, c'est une comparaison. Pas avec Adam, mais maintenant du côté positif avec Christ. Que ce qu'il a fait avec Christ, on peut le comparer à ce qu'il fera aussi avec nous. Donc il faut maintenant aller vraiment plus loin pour arriver jusqu'au cœur. On voit une illustration, on voit cette comparaison entre ces deux hommes, ou entre ce que Dieu fait à Christ et ce qu'il fait à nous. Mais le lien inévitable entre la résurrection du Christ et la nôtre est vraiment réalisé. Elle est effectuée. Elle marche, si vous voulez, à cause d'une relation. C'est le mot « relation ». Regardez le verset 22, 1 Corinthiens 15, 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Là, c'est le cœur de sujet. C'est une relation qu'ont les gens. Selon Dieu, vous, aujourd'hui, vous vous trouvez en relation avec Adam ou en relation avec Christ. Il y a vraiment ces deux hommes qui divisent tous les êtres de la planète. Nous sommes nés en Adam. Et de lui, nous avons hérité la mort. Romains 5, on parle de cela. Cette relation à Adam est naturelle dans le sens qu'elle vient par notre naissance. Il suffit d'être né pour être en relation avec Adam. Dieu nous voit comme une race, pas plusieurs races, une seule race, la race humaine. Vous savez, les anges, ils sont pas une race. Ils sont des êtres créés individuellement par Dieu et apparemment avec beaucoup de variétés. Et quand les anges ont péché, la Bible dit qu'il n'y avait pas de salut pour eux. Chacun a été jugé indépendamment, individuellement et pour son propre péché. Mais Dieu nous voit comme une race connectée, liée, soudée à un personnage. Et c'est vrai que nous sommes chutés, nous sommes tombés en Adam. La Bible dit que nous avons même péché en Adam. Nous, il nous tient nous sommes coupables pour le péché d'Adam parce que c'était notre péché, c'était notre père. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un deuxième Adam, un dernier Adam, et que par la foi, ce n'est pas une relation naturelle. Maintenant, ça vient avec une nouvelle naissance. Mais par cette nouvelle naissance, nous sommes maintenant en relation avec Christ. Et donc tout ce que Christ reçoit, nous recevons. Et donc si vous rejetez votre relation avec Adam, vous devez pareillement rejeter votre relation avec Christ. Et qui veut ici, veut se tenir devant Dieu indépendamment de Christ? J'espère que personne. Et donc c'est la relation qui crée ce lien entre sa résurrection et notre résurrection. Écoutez ces mots de Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est des mots forts. Si on vous devine, qui a été crucifié? Moi, je pourrais lever la main et dire, moi j'ai été crucifié. Ah oui? Quand ça? Avec Christ? Avec Christ? C'est un seul mot, crucifié avec, dans le texte original, et ça signifie co-crucifixion. J'étais co-crucifié. Alors ce n'est pas quelque chose c'est pas une expérience personnelle qu'on a. C'est pas quelque chose que nous avons ressenti ou vécu pendant notre vie. Mais c'est légal. C'est réel. C'est la doctrine de notre union avec Christ, que Christ est en nous, nous sommes en Christ, nous sommes unis à Christ. Même l'image du mariage où deux devient un n'est pas suffisant pour en fait décrire l'union qu'a le croyant avec Jésus-Christ. Et c'est, ma relation donc au Christ est réelle et vient à travers une participation à sa mort. Tout comme ma relation avec Adam est réelle et vient à travers une participation dans son péché. Et vous avez entendu citer aussi Romains 6:5 qui dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Christ, par la conformité à sa mort, hein, il revient sur cette illustration de plante, de prémisse. Sauf qu'au lieu qu'il est une pomme, et moi je suis comparé à une deuxième pomme sur le même arbre. Ici, nous sommes une même plante. Et il dit, si nous sommes devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On ne peut pas divorcer notre union avec Christ. Nous sommes dans une nouvelle alliance avec lui, scellée en son sang. Cette alliance ne peut pas être brisée. Vous ne pouvez pas ne pas être ressuscité si vous êtes en Christ. C'est impossible. Il n'y a rien à faire. Ça va se faire parce que Christ est déjà ressuscité. Alors pensez-y de cette façon. Vous allez mourir à cause de ce qu'un autre homme a fait, à qui vous êtes lié. La mort travaille en nous à cause d'Adam. Mais de la même manière, vous pouvez être ressuscité de cette mort à cause de ce qu'un autre homme a fait. Je relis le verset 22, la comparaison est reprise ici du verset 21, il dit « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Il y a cette solidarité que tout le monde a en Adam ou en Christ. Et c'est ça l'offre de l'évangile que nous voulons donner aux gens. Le christianisme n'est pas avant tout ce qu'on croit. Je pèse bien mes mots, mais ce n'est pas avant tout un credo. Être chrétien est avant tout une identité. C'est qui nous sommes. Alors il faut confesser de nos bouches le Seigneur Jésus. Il faut croire dans nos cœurs que Dieu l'a, quoi, ressuscité des morts. Il y a une croyance attachée avec ça. Mais si je vais au plus profond de ce que c'est d'être chrétien, ça concerne mon identité. La Bible dit comme ça, je suis une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que maintenant, je suis en Christ. La Bible dit qu'il nous a tirés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume glorieux. Nous qui étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde, nous sommes maintenant en Christ et ressuscités, la Bible dit, avec lui. Et je reviens sur ce verset en Romains 8, verset 11. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est beaucoup plus qu'une comparaison ici. Il dit beaucoup plus que le simple fait que j'ai souligné tout à l'heure que Dieu va faire avec nous ce qu'il a fait avec Jésus. Il dit, si l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. C'est-à-dire, si vous avez l'Esprit en vous, vous avez l'Esprit, il est identifié comme ça, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est encourageant ça de savoir, non ? Demain, je me lève, je vais au travail. J'ai habitant en moi l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il y a qui ne peut pas faire ? Et il dit, si c'est le cas, eh bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il parle du Père ici, il rendra aussi la vie à vos corps mortel par son esprit qui habite en vous. L'enseignement, je crois, est ceci. Si le Saint-Esprit vient habiter dans nos corps, et il a fait de nos corps, la Bible dit, un temple, Dieu ne peut jamais délaisser ce temple. Une fois que le Saint-Esprit prend sa résidence en nous, ce temple qui est mon corps et mes mains, ils doivent vivre éternellement. Ils doivent être ressuscités un jour pour être avec Christ. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Vous dites, bon, c'est un gars qui est chauve. Non, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et à cause de ce fait, mon corps est destiné à être ressuscité. Hein, c'est une confiance merveilleuse que nous avons en tant que chrétiens. Qu'en fait, si Dieu décide, ah, celui-là, je ne vais pas le ressusciter. Non, il devrait se renier lui-même et devenir un non-Dieu, ce qui est inconcevable. Et donc, je vous laisse avec cet appel et cette question. À qui êtes-vous attaché aujourd'hui ? À qui êtes-vous attaché aujourd'hui ? Parce que Adam ne va pas vous apporter la vie. Il n'y a pas d'espoir en Adam, ni les œuvres que nous puissions faire dans la chair. La seule espérance qui est devant nous, c'est d'être en Jésus-Christ. Et donc ne dites pas, bon, vous savez, ça me fait pas grand-chose. Comme si c'était une raison valable de rejeter le Christ. Donc qui êtes-vous ? Quelle est votre identité ? Parce que selon votre identité, vous serez un jour ressuscité pour la deuxième mort ou ressuscité pour la vie éternelle. Que nous tous puissions être réellement en Christ. Amen.